Épître de Paul à Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, on va aller verset 14 même. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Ici, dans ce verset, Paul rappelle à Tite, rappelle à l'Église, et je pense rappelle à chacun d'entre nous, le fondement de notre vie chrétienne. Le fondement de notre vie chrétienne vient avant tout de la grâce que Dieu a voulu nous faire en Jésus-Christ. Le fondement de notre vie chrétienne, le socle de notre vie chrétienne, est avant tout le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fondement de notre vie chrétienne n'est pas basé sur de la liturgie, n'est pas basé sur de la posturologie, n'est pas basé sur un ensemble de règles, n'est pas basé sur un ensemble de lois, mais le fondement de notre vie chrétienne est basé avant toute chose sur le fait qu'il y a un Dieu qui existe et un Dieu qui nous aime, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui aime chacun d'entre nous. Et que ce Dieu, qui est profondément saint, a accepté de gracier des hommes qui sont profondément mauvais. Le fondement de notre vie chrétienne, ce pourquoi nous sommes devenus des adorateurs, c'est parce que, comme l'affirme l'apôtre Paul aux Romains, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a graciés. Dieu a envoyé Jésus mourir sur le bois de la croix. Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur le bois de la croix. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris nos fautes. Il a pris nos péchés. Et un jour, le Saint-Esprit l'a attesté à nos cœurs. Nous avons courbé notre être devant cette révélation. Et que s'est-il passé? Nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus nous a recouverts. Nous sommes devenus justes alors que nous étions coupables. Nous sommes toujours coupables, mais nous sommes des coupables graciés. Nous sommes des coupables sauvés par grâce. C'est un cadeau qui était totalement immérité que Dieu nous a fait. Et c'est le fondement de ce en quoi nous croyons. Nous ne croyons pas à l'enseignement d'un homme, mais nous croyons dans l'enseignement de Dieu. Christ est le fondement sur lequel nous construisons. Sans ce fondement bien assis, nous ne pouvons pas construire. Et toute vie chrétienne commence par là. Elle ne commence pas par de la moralisation, mais elle commence par une révélation spirituelle de la croix et du don de Jésus. Et l'apôtre Paul continue ensuite en disant que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée, et cette grâce, ensuite, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Ce qui veut dire que sur ce fondement-là, nous avons vocation à construire, nous avons vocation à grandir. La grâce, en quelque sorte, nous fait devenir de nouvelles créatures, comme Jésus l'enseignera à Nicodème. Nous naissons de nouveau. Et ensuite, charge à nous d'être, de grandir, d'évoluer, de devenir des hommes et des femmes mûrs, faits, parfaits, arrivant jusqu'à la stature de Christ. Cette grâce nous enseigne. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Quelle est la nature de cet enseignement? Premièrement, cet enseignement, c'est une forme de responsabilisation. Vous remarquez la tournure du texte? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Il n'est pas dit que la grâce nous transformera automatiquement et que nous serons capables de résister à. Mais il est marqué que la grâce nous enseigne à. De la même manière qu'un enfant va à l'école et on lui enseigne à lire, De la même manière qu'on peut passer un CAP menuiserie et qu'on nous enseigne à nous servir d'un tour à bois, qu'on peut aller faire un BTS bancaire, par exemple, et qu'on nous apprend à calculer des formules de taux d'intérêt, etc. Eh bien, la grâce de Dieu, qui est le fondement, nous enseigne à. Dieu est un Dieu qui responsabilise ses enfants. Il fait sa part, et ça c'est toujours une constante, et nous, nous avons là notre affaire. C'est une pédagogie. La marche avec Dieu, c'est une pédagogie. Et la grâce, chaque jour, nous fait rentrer dans cette pédagogie où nous sommes enseignés. C'est un processus, la pédagogie. On a des hauts et on a des bas. Et dans la vie des disciples, durant les 3 ans et demi du ministère de Jésus sur cette terre, un homme comme Pierre a eu des hauts et a eu des bas. Il y avait des jours où il était excellent élève, avec des félicitations de Jésus qui lui dira « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, Pierre, mais tu les as reçues directement de mon Père. » Et puis, il y aura des jours sans où Jésus se tournera vers lui et lui dira « Regarde-moi, Satan. » C'est un processus où on apprend. Et j'aime le dire, la vie chrétienne, c'est tout sauf quelque chose de linéaire. C'est tout sauf quelque chose de linéaire. Ce n'est pas une courbe ascendante bien régulière, mais ça ressemble plutôt à un système sinusoïdal, mais qui tire vers plus l'infini. Oui, j'ai quelques relents de maths des fois. C'est une croissance. Vous savez, dans ce processus, on est profondément seul. De la même manière que bien souvent, on est seul devant notre copie. Et dans mon court ministère, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien de pire que de se comparer les uns aux autres. Un petit peu comme des élèves comparent leur copie. « Ah, t'as pris 6 en maths ? Waouh, j'ai pris 8. T'as pris 6 en sanctification ? Oh, moi j'ai 14. T'as 18 en louange ? Oh là là, j'ai que 2. » Ben ouais, je loue pas haute voix, donc je suis nul, forcément. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on loue pas haute voix qu'on ne sait pas louer, et qu'on n'est pas des adorateurs, et qu'on est de moins bons chrétiens. Pourtant, c'est ce genre d'idée qui est répandue, parce que l'on se compare les uns aux autres, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se taire. Mais dans ce processus, on n'a pas vocation à se comparer les uns aux autres. Mais on a vocation à apprendre chacun ce que le maître veut que nous apprenions. C'est une pédagogie. Et ensuite, deuxièmement, cet enseignement, elle ne nous est pas imposée. Et j'aime beaucoup la manière dont Jésus travaillait avec ses disciples. Il répétait et il rabâchait. Les disciples ne comprenaient pas l'enseignement sur la résurrection. Comment toi, tu dois mourir et ensuite tu dois ressusciter ? Mais ce n'est pas possible. Tu es le Messie, tu es un Messie, entre guillemets, politique. C'est toi qui vas nous délivrer du joug des Romains. Et Jésus disait, non, il faut que le Fils de l'homme meure. Mais non, tu dois nous délivrer. Non, ce n'est pas possible. Ils ne comprenaient pas et Jésus répétait les choses. L'apôtre Paul écrira aux Philippiens de mémoire qu'il ne se lasse pas de leur répéter les mêmes choses pour leur sécurité. Et la pédagogie de Dieu, c'est une pédagogie qui ne nous est pas imposée, mais où nous avons notre choix à faire. Et de la même manière, lorsque nous enseignons, que ce soit des enfants, que ce soit des frères et sœurs, réalisons bien une chose, c'est que nous n'avons rien à imposer. Mais nous proposons. Nous n'avons pas à brandir le bien, le mal, tu dois, tu ne dois pas. Mais nous annonçons les vérités essentielles. Et si les gens ne les écoutent pas, si ton frère ne l'écoute pas, si ta sœur ne l'écoute pas, ne te vexe pas, ne lui fais pas la tête. Mais prie pour lui et aime-le encore plus fort. Et aime-le encore plus fort. Parce que c'est l'amour qui change les cœurs. Parce qu'à partir du moment où l'on impose les choses, alors on n'enseigne plus la foi, mais on enseigne la religion. On enseigne la religion. Et on enseigne la religiosité. Cette pédagogie, cette grâce nous enseigne, et comme tout bon pédagogue, Jésus donne des moyens. Fabuleux, ça, hein ? Nous donne des moyens. Oh, j'en ai relaté cinq qu'on va voir vite fait, hein, rapidement. Premièrement, sa vie. Extraordinaire, ça, sa vie. Se dire que Jésus a vécu en toutes choses comme nous sans jamais commettre de péché. Se dire que lorsque le diable est venu frapper à la porte de son cœur à trois reprises, eh bien, il nous donne le mode d'emploi pour lui résister. Il est écrit. Mon frère, lorsque eh bien, tu es tenté, ton seul moyen, le seul moyen de résister, c'est de dire « il est écrit ». C'est de serrer la parole de Dieu contre ton cœur afin de ne point pécher contre lui. Sa vie, toute chose irréprochable, et au travers de laquelle, eh bien, nous-mêmes, nous devenons irréprochables parce qu'il s'est offert sur la croix. Sa parole, qui est une lumière sur notre sentier. Quel moyen extraordinaire pour nourrir notre âme, eh bien, de choses véritablement spirituelles. Troisièmement, l'Église. Troisième point, l'Église. C'est beau l'Église, non ? Waouh ! Je suis fier de notre pasteur. Je vais poser le micro, d'accord ? Et puis bon, je vais aller prêcher dans le désert. Ce lieu où on est enseigné, ce lieu qui n'est pas parfait, ce lieu où il y a plein de défauts, ce lieu où on peut prendre ce grand repas de famille tous les dimanches, se faire du bien, en partageant, en écoutant la louange des uns des autres. Moi, je me fais du bien en écoutant vos louanges. J'aime les entendre. J'aime chanter avec vous. J'aime entendre les dons spirituels. Ce sont des choses qui font du bien, eh bien, à notre âme. Quatrièmement, le Saint-Esprit. La grâce, la venue de Jésus et l'ascension de Jésus lui a permis de nous envoyer son esprit. Et Jésus dira lui-même qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Il dira à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, sans quoi vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Puis cinquièmement, la communion, la relation que l'on peut avoir avec lui au travers de ce chemin qu'il a ouvert. La grâce nous enseigne et elle nous donne des moyens. C'est là qu'on voit que la foi en Jésus-Christ est tout sauf une moralisation. Mon ami, peut-être hésites-tu à t'engager dans ces voies ? Sache une chose, c'est que Jésus te donnera les moyens pour vaincre ce qui t'aliène. C'est que Jésus te donnera les solutions pour venir à bout de tes soucis, pour venir à bout de tes tracas, pour vaincre tes peurs. Jésus te donnera les moyens de vaincre les épreuves qui sont devant toi. La grâce de Dieu surpasse eh bien toute intelligence. Les moyens de Dieu nous soutiennent, sont là pour nous affermir lorsque notre cœur est dans la douleur, lorsque notre cœur est dans la souffrance et qu'on se dit « Seigneur, j'ai envie d'arrêter la course, j'ai envie d'arrêter d'être enseigné, ton enseignement est trop dur, tes paroles sont trop dures, la vie avec toi est trop dure, la vie toute court est trop dure et quelque part, je voudrais ne pas être né. » Ça, c'est une chose, c'est que la grâce de Dieu t'apprendra à franchir les montagnes. J'aime bien le redire, mais souvent on pense que la foi, c'est de dire simplement à cette montagne, jette-toi dans la mer. C'est vrai, mais la grâce de Dieu, elle nous permet de gravir la montagne. Je l'aime bien ça. Elle nous permet de gravir la montagne. Avec la force que Dieu nous donne jour après jour. Et de vaincre. De passer ce que l'on ne concevait même pas pouvoir passer un jour. Cette grâce, elle nous enseigne à faire quoi ? Elle nous enseigne deux choses, d'après ce texte de Tite. Ça va, vous me suivez ? Bon, ça change alors. Premièrement, ben c'est ma faute, hein. C'est le pédagogue qui n'est pas bon si vous ne me suivez pas. Hein. Je ne remets absolument pas en cause des élèves. Premièrement, elle nous enseigne à renoncer. Ah, ça, c'est moins drôle. Elle nous enseigne à renoncer. C'est. Jésus dira, on connaît bien ce passage, Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, lorsqu'il est dit qu'il se charge de sa croix, il ne faut pas assimiler ça aux épreuves de la vie, mais c'est lié aux persécutions et aux difficultés que l'on peut avoir en tant que chrétien. D'accord ? Ne faisons pas dire à Jésus ce qu'il ne dit pas. Et nous entrons finalement,
en vivant le renoncement, nous faisons quoi ? Nous entrons dans les œuvres du Maître. Nous faisons comme lui. Petit rappel, il a renoncé à la gloire éternelle. Il a renoncé à ses attributs divins. Il a renoncé à ses droits au profit des nôtres, qui n'en avions aucun. Il a renoncé à sa vie pour la nôtre. Et surtout, il a renoncé à sa propre volonté devant celle du Père. Dixit Gethsemane. En termes de renoncement, Jésus nous a ouvert la voie. Et nous qui sommes ses disciples, nous avons vocation à vivre la même chose que le Maître. Le disciple n'est pas plus que le Maître. Et ce que le Maître a vécu, le disciple devra le vivre. Et Jésus nous a précédés sur ce chemin de manière à calibrer les choses, de manière à ce que nous puissions les vivre. Mais on ne peut pas vivre une vie chrétienne épanouie sans renoncement à nous-mêmes, sans renoncement à nos idées préconçues, sans renoncement à nos pensées mauvaises, sans renoncement à notre péché, sans renoncement peut-être à notre orgueil. On ne peut pas vivre une vie chrétienne épanouie sans, parfois, sans brisement. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'il y a une distorsion tellement importante entre ce que nous sommes et entre ce que nous devrions être. Et en nous, il y a, même si on ne le reconnaît pas, il y a une forme de droiture, une forme, j'allais dire, d'orgueil qui nous empêche de vivre les commandements de Dieu. Alors, eh bien, il faut qu'il y ait ce renoncement, il faut parfois qu'il y ait ce brisement qui nous fasse rentrer dans les plans de Dieu. On ne peut pas vivre de vie chrétienne sans renoncer à soi-même. Je suis désolé, mon frère, je suis désolé, ma sœur, mais c'est une loi du royaume. Si tu sens dans ton cœur, alors laisse ce besoin grandir. Le renoncement, premièrement, c'est un acte volontaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'impose rien. Je ne peux pas forcer Hélène a renoncé au chocolat. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je pourrais lui faire les discours, les plus grands discours moralisateurs, je ne pourrais pas la faire renoncer au chocolat. Mais seul un choix personnel de sa part, une prise de conscience à quel point le chocolat peut être nuisible pour elle, pour sa santé, pour ses coronaires, pour son portefeuille, pour son estime d'elle-même, pourra faire en sorte qu'elle renonce au chocolat. De la même manière que nous, pour renoncer à un péché, il faut que le Saint-Esprit nous révèle toute la noirceur que ce péché découle en nous, génère en nous. Je pourrais prendre un marteau et puis lui enfoncer « c'est pas bien le chocolat, c'est pas bien le chocolat, c'est pas bien le chocolat » que ça n'y ferait rien, elle mangera son chocolat en cachette. Le renoncement, c'est avant tout un acte personnel et un acte volontaire. Je veux renoncer parce que je prends conscience que ce que je pratique, que ce que je pense, que ce que je suis est mauvais. Et je dirais que le renoncement, c'est un cheminement qui commence par des choses extrêmement simples, par des petits événements. On dit, tiens, c'est bizarre, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce que moi je vis et ce que la Bible enseigne. Il y a un décalage entre ce que mon frère vit et ce que moi je vis. Et puis, petit à petit, ce décalage devient un fossé. Et il commence à nous faire souffrir. Mais parce que, et on ne va pas se leurrer, mes frères et sœurs, je pense que vous êtes de la même nature que moi. Mais parce qu'on y tient à nos idées. Parfois on y tient à notre péché. Parfois, on y tient à nos saletés. Parfois, on y tient à notre souffrance. Alors, on s'y rattache. Et c'est là qu'un combat terrible commence à naître en nous. On sait qu'il faut que l'on arrête, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et puis, il arrive un moment où, à force de demander à Dieu, à force de se tenir dans la sainteté de Dieu, quelque chose se passe en nous. Et il y a un temps, et il y a un moment, il y a un déclic. et de manière personnelle, on arrive à renoncer. Mais très souvent, et j'en reviens à mon introduction, tout se passe à la croix. Tout se passe à la croix pour quelle raison ? Parce qu'on y voit l'amour de Dieu pour nous. Et on est confus d'attrister ainsi le cœur de Dieu, d'attrister ainsi le cœur de ceux que l'on aime. Et tout se passe à la croix parce que c'est à la croix que Jésus a vaincu tout cela et a porté tout cela. La grâce nous enseigne à renoncer. Jésus, lorsque je vois ton amour, je suis prêt à renoncer. Lorsque je vois, comme on l'a chanté, merci à Yann pour ce chant remarquable. Lorsqu'on voit tout ce que Jésus a fait pour nous, alors oui, Seigneur, je suis prêt à renoncer. Je le fais pour rien, parce que tu as déjà tout fait. Je le fais juste parce que je t'aime. Et là, tout d'un coup, le blocage, le combat cesse en nous. Et la victoire vient. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de renoncer. Renoncer à un penchant mauvais, renoncer à une attitude mauvaise. Renoncer à un péché, quel qu'il soit. La grâce t'enseignera. Tout part de la croix. Tout part de la croix. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la grâce se renouvelle tous les jours. C'est que la grâce se renouvelle tous les jours. Et que chaque jour, eh bien, l'amour de Dieu nous inonde et l'amour de Dieu nous fait du bien. La grâce nous enseigne quoi ? À renoncer à quoi ? À l'impiété. C'est quoi l'impiété ? C'est le manque de révérence, le manque de dévotion. Vis-à-vis de Dieu, bien sûr. Quand j'ai lu cette définition, je me suis dit que peut-être il y avait plus d'impies que ce qu'on pouvait le croire. Et peut-être que dans d'autres églises, pas ici, je précise toujours, hein, il pouvait même y avoir des impies assis sur les chaises. Ah ! Vous êtes tranquille, j'ai dit que c'était pas ici, donc vous ne vous sentez pas visé. Et vous qui nous visitez aujourd'hui, vous êtes automatiquement sanctifiés à partir du moment où vous rentrez. C'est tout simplement le fait de ne pas penser à Dieu. Le fait de ne pas rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Romains ? C'est que la colère de Dieu s'est révélée contre quoi ? Contre toute impiété. Et Dieu a donné son Fils afin que les hommes le connaissent, qu'ils aient un accès auprès de lui. Souvent, les hommes, les personnes que je rencontre inconverties me disent « Mais moi, j'ai jamais commis de péché. » Alors, je pourrais leur demander s'ils n'ont jamais volé, menti, etc., passer quelques heures à faire le détective privé. Mais il y a beaucoup plus simple. Est-ce que tu t'es préoccupé de Dieu ? Est-ce que vous vous êtes préoccupé de Dieu ? Est-ce que vous êtes préoccupé de l'amour de Dieu ? Est-ce que vous êtes préoccupé de votre Créateur ? Est-ce que vous êtes préoccupé de penser à lui ? Est-ce que vous êtes préoccupé de vous demander quels étaient ses besoins ? Très souvent, la réponse est non. Ce à quoi je conclus, eh bien, vous êtes pécheur. On peut avoir une vie extrêmement morale. On peut faire du bien. On peut faire des œuvres excellentes. Mais le faisons-nous en pensant à Dieu, pour Dieu. Pensons-nous, Dieu a-t-il une place dans notre vie ? Même en étant chrétien. Et puis, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, mais également aux choses mondaines, comme certaines de la version second peut le traduire. Alors, je ne vais pas m'engager dans un terrain glissant, d'accord ? À définir ce qu'est la mondanité, quoique si. C'est quoi la mondanité ? Faites attention. L'apôtre Paul, je trouve, écrit à Timothée et donne une bonne notion de la mondanité. Dans les derniers temps, les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, ingrats, rebelles à leurs parents et, entre parenthèses, à toute autorité. Hein ? Je trouve que c'est une belle définition de la mondanité. Ça va, vous êtes rassurés ? J'ai pas parlé des danses, j'ai pas parlé de la musique, j'ai pas parlé des tenues vestimentaires. J'ai évité le piège. Mais si vous voulez, on pourra le faire, ça me dérange pas. C'est cet esprit-là auquel la grâce nous enseigne à renoncer. L'ingratitude. Des problèmes avec l'autorité. Fanfaron. Cette notion d'être en premier. L'égoïsme. Qui, dans notre société, se transforme petit à petit en égocentrisme. C'est ces choses-là que la grâce nous apprend à fuir, nous apprend à rejeter, nous apprend à refuser. C'est contre ces choses-là que tu dois te battre dans ta vie. Et je te conseille de prendre ce texte puis de le repasser un petit peu dans votre cœur. Et de se dire, Seigneur, est-ce que par hasard, l'esprit du monde ne serait pas rentré dans mon cœur et dans ma vie ? La grâce vous enseigne à renoncer. Et puis, vous me laissez 5 minutes de plus que d'habitude ? Et la grâce nous enseigne à vivre. À vivre dans le siècle présent. D'un côté, je renonce, donc je me prive de quelque chose, mais d'un autre côté, j'y mets autre chose. Parce que je ne suis pas fait pour rester vide. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour rester vide. Et le vide n'existe pas dans la création. Dès qu'il y a un vide, automatiquement, il est rempli par quelque chose. Et dans mon cœur, c'est la même chose. Lorsque je me débarrasse d'un péché, il est nécessaire que je remplace par quelque chose. Mais par quelque chose de bon. Et c'est ce que Paul dit. Voilà, d'un côté tu renonces et la grâce t'apprendra à renoncer, mais elle t'apprendra également à vivre. C'est-à-dire qu'avant tu faisais du négatif, et bien demain tu apprendras à faire du constructif. Et lorsque nous nous donnons à Jésus, lorsque nous nous convertissons, quelle est la première chose que nous faisons ? Nous servons. La belle-mère de Pierre, une fois qu'elle a été guérie, elle a servi. Lorsque nous sommes bénis, la première chose que nous faisons, eh bien nous réinjectons la bénédiction qui nous a été donnée dans la foi. Lorsque nous recevons de Dieu, nous réinjectons dans la louange. Lorsque Dieu renouvelle nos forces, nous réinjectons dans le service. Automatiquement, il doit y avoir ce cercle vertueux. Et nous avons vu dans nos propres vies que chaque fois que nous ne l'avons pas fait, alors nous avons rétrogradé. Alors nous sommes revenus en arrière. Nous avons perdu du terrain. Chaque fois que nous n'avons pas réinjecté ce qui nous avait été donné, alors nous avons reculé. La grâce nous apprend à vivre, comment ? D'une manière sensée. Je l'aime bien ce terme. Alors il y a plusieurs versions. Il y en a une qui dit « en pleine sagesse ». Et le mot grec est utilisé, je l'ai quelque peu oublié, est réutilisé par Paul dans cette même épître de Tite, lorsqu'il parle du vieillard qui doit être modéré, de la jeune fille qui doit être retenue. Et être sensé, c'est tout simplement ne pas vivre dans l'excès. Vivre en pleine sagesse, c'est tout simplement ne pas vivre dans l'excès. Et dans notre vie quotidienne, nous devons apprendre à ne pas vivre dans l'excès. Même dans l'excès spirituel. Comme je le dis de temps en temps, être sensé, c'est notre quotidien. La foi, c'est l'extraordinaire. Et le souci, c'est quand la foi doit venir au secours de notre manque de bon sens. Combien de problèmes pourraient être évités si on réfléchissait un petit peu ? Et combien de miracles pourraient être évités si on réfléchissait un petit peu ? Et la Bible est très pragmatique, et la Bible est un livre extrêmement pragmatique. Elle nous apprend à vivre de manière sensée. Elle nous apprend à construire nos vies de manière sensée. de manière équilibrée. L'apôtre Paul écrira aux Corinthiens que, eh bien, tout n'est pas, rien n'est interdit, mais que tout n'est pas utile. Ou alors que tout n'édifie pas. Il utilise cette tournure à deux reprises. Et c'est important de se dire, est-ce que ma vie est dans une vie d'équilibre ? Ou alors est-ce que je suis dans les excès de la société de consommation et je ne veux pas devenir moralisateur ? Est-ce que je suis dans les excès de mon amour pour ma famille, auquel cas plus rien ne compte ? Est-ce que je suis dans l'amour de mon travail d'une manière extraordinaire, auquel cas il y a un déséquilibre ? Est-ce que ma vie n'est faite que de démarches de foi ? Auquel cas il y a un problème. Auquel cas il y a un problème. Par contre, s'il n'y a aucune démarche de foi, il y a également un problème. À vivre d'une manière sensée, donc modérée, sans excès, sobre. Juste, je passe, c'est rendre la justice à qui elle le doit, ça pourra faire l'objet d'une réflexion autre, et pieuse, ce qui contraste avec l'impiété. Alors en conclusion, vous avez vu la suite de ce verset ? Verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. » Nous sommes en résistance. Nous résistons. Mais nous résistons d'une manière digne. Nous n'avons pas vocation à vivre selon le siècle présent. Nous sommes, je vous le dis de temps en temps, des saumons spirituels. Vous savez pourquoi ? Non pas parce que nous sommes pleins d'oméga 3, mais parce que nous remontons le courant. Nous remontons le courant. Et nous sommes en résistance. C'est-à-dire que tous les jours, nous nous astreignons avec la grâce de Dieu qui dépose en nous le vouloir et le faire. Hein ? C'est lui qui nous dépose le vouloir et le faire. Nous sommes en résistance de manière à ce que, au jour de son retour, le Seigneur Jésus puisse nous trouver debout. Nous sommes en résistance, un petit peu comme les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale qui freinaient l'avancée des nazis. Et l'Église freine l'avancée du mal aujourd'hui dans notre société, au travers de sa présence, au travers de la prière. Et lorsque l'Église sera enlevée, lorsque l'Esprit sera enlevé, alors viendra l'avènement de l'Antichrist. Nous sommes en résistance, nous formons une digue. Une digue par rapport aux valeurs morales, une digue par rapport aux valeurs spirituelles. Et nous le faisons en attendant quoi ? Le grand débarquement céleste. Celui qui est vainqueur. Celui qui viendra chercher son Église. Celui qui nous emmènera avec lui dans l'éternité. Alors oui, mon frère, eh bien, c'est peut-être difficile d'être un tapis dans les forêts. C'est peut-être difficile de vivre des combats au quotidien. C'est peut-être difficile de vivre quelques privations. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et le grand vainqueur, un jour, manifestera sa gloire dans notre vie. Le grand vainqueur manifestera sa gloire et nous emmènera avec lui dans l'éternité. Alors continuons à résister. Continuons à nous battre parce que nous sommes utiles à notre société. Tes prières sont utiles à la société, sont utiles à ta famille. Ta présence est une digue. Et la grâce nous enseigne chaque jour à être de meilleurs résistants et à rester fidèles en attendant la gloire éternelle qui nous sera révélée en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.